Moi, ce que je veux, c'est ma cathédrale.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le 4e épisode de notre série consacrée cette semaine à un phénomène du Moyen-Âge. Comment est venu le temps des cathédrales? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales et du patrimoine religieux. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment au XIIe siècle débute le grand mouvement en France de construction de nouvelles cathédrales dans le style dit gothique, des chantiers initiés par les évêques des villes.
Je pense à ceux qui ont bâti ça.
Ouais, la cathédrale ?
Oui.
Ben, ça doit faire une paye.
Attends, elle a été construite vers les 1100 et quelques. Ça fait dans les 800 ans. Dis, tu te rends compte ? 800 ans ?
En tout cas, c'est du manchot. Il va y en avoir dans le ventre pour monter une pièce pareille. C'est les curés qui l'ont fait ?
Mais non, c'est le pape.
C'est le peuple. Souvent, en contemplant une cathédrale, nous nous demandons aussi comment les hommes du Moyen-Âge, cette période réputée obscure et irrationnelle, ont-ils réussi à édifier de pareils monuments. Au XIXe siècle, à la période romantique qui a eu l'avantage tout de même de sortir le Moyen-Âge de son long purgatoire, on disait souvent que les cathédrales étaient des œuvres sans auteur, nées d'un grand mouvement collectif auquel une foule de croyants aurait participé bénévolement. Quelques récits du Moyen-Âge montrent en effet le roi Saint-Louis et ses frères payant de leur personne sur le chantier d'une abbaye. Un autre récit évoque la présence de milliers de volontaires, nobles et roturiers, accourus à Chartres de tous les coins du royaume pour assurer les basses besognes du chantier de la cathédrale en 1194. Un autre récit raconte une histoire bien différente, celle d'un seigneur venu pour expier ses fautes, participer bénévolement au chantier de la cathédrale de Cologne. Mais perçu par les ouvriers rémunérés comme une concurrence déloyale, le pauvre seigneur sera assommé et jeté dans le Rhin. À bon entendeur.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Il y avait surtout des artisans, des maîtres en maçon, des maîtres en charpentier, des maîtres verriers.
Mais combien de temps qu'ils mettaient pour la faire leur cathédrale ?
Des années et des années. Le père la commençait. Le fils continuait, et quelquefois même, le petit-fils en rajoutait. C'était long, dis donc.
Quel travail !
Oh, ils aimaient leur boulot, quoi. Alors, ils le faisaient bien.
Maintenant, on le sait, la construction d'une cathédrale nécessite une main-d'œuvre nombreuse et rémunérée. Et il en faut du monde, depuis les simples terrillons chargés des tâches les plus pénibles, jusqu'aux très qualifiés tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentiers, verriers, en passant par les porteurs de hottes, les piqueurs, les bêcheurs. Ces hommes arrivent de partout, de tout le royaume, attirés par l'embauche, mais aussi pour voir du pays. Inversement, quand ils peinent à recruter, les responsables font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Si les ouvriers qualifiés sont bien payés, il arrive aussi qu'on fasse appel au travail forcé, donc gratuit, paysans attachés à une seigneurie, vagabonds et mendiants corvéables à merci. Les journées de travail sont longues. Commencées à l'aube, elles peuvent durer jusqu'à 12 heures l'hiver et 16 heures l'été. Et les accidents sont fréquents. Tête froissée jusqu'à la cervelle, disent les chroniques, membres blessés, corps caduc, chenu et cassé. Un des métiers sans doute les plus fascinants sur le chantier d'une cathédrale est celui de verrier, celui qui fabrique les vitraux, un travail d'une extrême minutie, fondamental pour faire entrer la lumière et la couleur à l'intérieur de l'édifice. Un des plus spectaculaires exemples de l'art du verrier est la nef de la Sainte-Chapelle à Paris, où la pierre ne sert qu'à soutenir les 600 mètres carrés de vitraux. Un chanoine de l'époque, Guillaume de Mende, ébloui par les vitraux, les compare dans un texte à des écritures divines qui, je cite, « versent la clarté du vrai soleil dans le cœur des fidèles en les illuminant ». Mathieu Lours, a-t-on une idée du nombre de personnes qu'il fallait pour construire une cathédrale au Moyen-Âge ?
Généralement, sur un chantier, une trentaine de maçons compétents et une centaine de manœuvres, ça suffit, parce qu'on ne construit pas tout d'un seul coup. On a un phasage du chantier, et sur une tranche fonctionnelle, ça ne sert à rien de mettre 200 maçons sur un pilier. Donc il y a une rationalisation du chantier qui fait qu'on privilégie la compétence et l'efficacité à un trop grand nombre. Chaque métier a ses propres attributions. On a effectivement une coordination du travail. Et puis, on a quand même un phasage, c'est-à-dire qu'on va vitrer une fois que l'édifice est couvert et va entrer en service. Mmh. Parce qu'on ne veut pas que les vitraux soient abîmés. Puis plus on avance vers le XIIIe siècle, plus il y a une spécialisation. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, le maçon, c'est un métier polyvalent. Au XIIIe siècle, vous avez le tailleur de pierre, le maçon, comme au XIIe, mais vous avez maintenant l'appareilleur. Celui qui, avec le maître d'œuvre, dit où va telle pierre qui a déjà été préparée parfois depuis la carrière pour être taillée de telle manière et mise à tel endroit. Et qu'un système de chiffres à Reims, par exemple, c'est évident. Et puis, chacun est rémunéré à la tâche. Impose une petite tâche, chaque tailleur de pierre met un signe sur la pierre, ce qu'on appelle une marque de tâcheron, et il est rémunéré à la fin de sa journée avec ça.
Est-ce qu'il y avait une grande disparité entre tous ces différents métiers ? Est-ce qu'il y avait une solidarité entre les ouvriers ?
Il y a évidemment une solidarité, une vie commune, mais il y a quand même de très fortes hiérarchies dans chaque métier. C'est-à-dire qu'il y a le monde des maîtres, le monde des compagnons et le monde des apprentis. Et tous les compagnons ne deviendront pas maîtres, parce que les ateliers se transmettent de père en fils. Et donc, il y a des blocages sociaux aussi au sein des métiers.
Et bien sûr, il y a l'architecte, le maître d'œuvre.
Oui, le maître d'œuvre qui transcrit dans la pierre la pensée du maître d'ouvrage, qui est l'évêque, dans le cas d'une cathédrale. Et ces maîtres d'œuvre sont de plus en plus nommés dans les sources et de plus en plus reconnus. Par exemple, l'évêque de Meaux va débaucher le maître d'œuvre de la cathédrale d'Évreux avec des contrats d'exclusivité qui font penser à ceux des artistes d'aujourd'hui pour des labels de maisons de disques. Et puis, on sait que Jean de Chelles, qui travaille aux Grandes Roses de Notre-Dame de Paris, eh bien son nom est inscrit sur Notre-Dame de Paris. C'est la première fois qu'on inscrit le nom de l'architecte, du maître d'œuvre.
Et il faut trouver du matériel, trouver des pierres, trouver du bois. Il en faut beaucoup, du bois, pour construire une cathédrale. Quel genre de bois on
utilise ? Alors, il vous faut d'une part du bois de charpente, mais il vous faut aussi du bois d'échafaudage, parce que les échafaudages sont entièrement réalisés en bois. Ensuite, il vous faut du bois pour le mobilier, les stalles des chanoines, c'est-à-dire les sièges monumentaux du clergé dans la cathédrale, le buffet d'orgue, et certains retables, c'est du bois.
Et combien de temps faut-il pour construire une cathédrale ?
Ça dépend de l'argent que vous avez. La cathédrale de Chartres, diocèse très riche, chapitre cathédrale très riche, une cathédrale qui brûle en 1194, dont on peut garder une part importante des fondations, la façade et les tours, en 25 ans, elle est finie. 1194, 1221. À la cathédrale de Reims, le chœur, il faut 25 à 30 ans.
Et les vitraux, est-ce qu'on sait comment les verriers travaillaient ? On disait toujours qu'ils avaient leurs secrets.
Oui, il y a des secrets d'atelier, mais on les connaît, parce qu'on peut analyser aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, les verres qu'ils ont laissés. On sait par exemple qu'au XIIe siècle, on travaille avec un bleu très clair, qui est le bleu de cobalt, et qu'au XIIIe siècle, ce bleu de cobalt étant cher et rare, on va plutôt passer au bleu de manganèse, qui est ce bleu intense qu'on trouve, par exemple, à Chartres, dans les verrières du XIIIe, alors que les verrières remployées du XIIe sont plutôt en bleu de cobalt.
Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui sur les pierres des cathédrales des signes gravés par des ouvriers ? On dit toujours qu'ils sont anonymes. Est-ce qu'ils ont laissé des petites traces ?
Oui, on a les fameuses marques de tâcherons qui sont effectivement présentes pour le paiement à la journée.
Ça, ouais.
Et puis parfois, on a des traces d'épures. C'est-à-dire des tracés sur le sol qui ont été faits pour avoir les modèles d'appareillage de pierre. À Reims, dans le bas-côté nord, vous avez une splendide trace d'épure. On a inscrit dans le monument la manière dont on dessinait sa propre histoire, en quelque sorte.
Dans les églises romanes, il y avait des étrangetés, des monstres, des gravures d'animaux bizarres. Est-ce qu'il y a ça encore dans l'art gothique,
oui,
où les choses deviennent plus rationnelles ?
Ah non, pas du tout. Et puis plus on avance dans le gothique, plus les monstres reviennent. Dans le gothique flamboyant à la fin du XIVe, surtout au XVe et XVIe siècle, là il y a vraiment une inventivité de monstres et puis aussi de figures pittoresques. Parce que si on soulève les sièges des stalles, les sièges des chanoines, on a souvent des choses qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église.
C'est-à-dire ?
Ah bon, on est dans un humour tout à fait paillard, scatologique, parce que le monde, c'est ça. Il faut un reflet du monde dans la cathédrale. Il y a des monstres, il y a des choses qui font partie
de la vie.
Du monde grivois. Et après tout, assumons de représenter le monde tel qu'il est et auquel Dieu a parlé dans toutes ses modalités.
Et je disais, le Moyen-Âge, on a toujours dit que c'était une période obscure, irrationnelle. Pour fabriquer, construire une église, pour la concevoir, il faut évidemment connaître la géométrie.
Mais oui, parce que l'idée du Moyen-Âge obscur et irrationnel, c'est un mythe de la Renaissance et des temps modernes. Le Moyen-Âge maîtrise les mathématiques, il sait calculer un rapport de proportion avec le nombre d'or, il connaît le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Alors c'est sûr que le calcul d'un vecteur force, pour savoir si la voûte va tenir ou si l'arc-boutant va tenir, là il n'y a pas de calcul préalable. C'est l'expérience, et puis ce moment on dit on va aller plus loin. On va aller plus haut, on va aller encore plus loin, on va aller encore plus haut, et où l'évêque fait confiance à l'architecte, voire dit à l'architecte « je vous couvre, allez plus haut ».
Est-ce qu'il arrive que ces cathédrales s'écroulent ?
Oui, il arrive qu'elles s'écroulent. À Beauvais, en 1284, on a un effondrement d'un voûtain qui oblige à reprendre toute la statique de la cathédrale, à multiplier par deux le nombre de piliers et d'arcs-boutants pour arriver à sauver la structure.
Merci Mathieu Lours. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le cas à la fois emblématique et particulier de Notre-Dame de Paris, une cathédrale à la fois religieuse et en même temps politique, et une histoire très mouvementée.